accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour à tous. Les Européens vieillissent et les naissances ne suivent pas. Ce phénomène démographique qui interroge en ce moment la capacité des gouvernements européens à trouver un système de retraite viable est une problématique qui touche aussi de plein fouet le monde agricole. Comment assurer la relève en milieu rural? Si l'Italie est le pays européen qui emploie le plus de jeunes dans le secteur agricole, en Espagne, la question se pose de façon criante. Selon l'Institut national des statistiques, 40% des travailleurs ruraux ont plus de 65 ans et seulement 10% ont moins de 40. La difficulté d'accéder à des terres et le coût très bas de la production rendent les travaux des champs peu attractifs. Malgré cela, des jeunes pionniers, souvent très diplômés, se lancent dans l'aventure. Exemple avec ce couple de trentenaires que notre correspondante en Espagne, Diane Cambon, a rencontré.
Tout a commencé sur les bancs de l'université de Cordoue. Arco venait de Cantabrie, Sonia de Naples. Fraîchement diplômé comme ingénieur agronome et des eaux et forêts, il décide de s'installer dans la Sierra Morena pour monter leur élevage de chèvres. Plus citadins que ruraux, ils ont tout appris sur le terrain, tant le soin des bêtes que la fabrication du fromage. 5 ans plus tard, à la tête de la société Como Cabras, ils confectionnent 7 fromages différents et sont à la tête d'un cheptel de 70 bêtes. C'est plus qu'un travail, comme l'explique Sonia dans sa petite fromagerie, où une dizaine de crottins de chèvres sont en train de sécher.
C'est une passion, car on se consacre entièrement à cette activité, chaque jour, avec les bons et les mauvais moments. C'est un travail dur et il faut vraiment aimer ça, mais la chèvre, c'est notre animal favori à tous les deux. C'est un animal très intelligent, facile à vivre, c'est le choix du cœur.
Chaque semaine, il change de rôle. L'un s'occupe de l'entretien des bêtes, des soins, de l'alimentation et de la traite. L'autre, de la fabrication des fromages et de leur commercialisation. Pour Sonia, il a fallu surmonter un autre défi, s'imposer comme bergère et fromagère dans un milieu rural encore très masculin.
Le fait d'être femme en milieu rural, surtout en Andalousie où la culture machiste est encore très forte, n'est pas toujours facile, car on ne te prend pas au sérieux. C'est un peu une lutte permanente pour t'affirmer avec les hommes du coin, comme le vétérinaire ou ceux de la municipalité.
Leur intégration dans la région a pris également du temps, car il a fallu imposer leur méthode d'agroécologie. Convaincre les vétérinaires de ne pas utiliser d'antibiotiques ou privilégier les aliments bio pour les chèvres. Car pour Arco, le retour à la terre s'accompagne d'une véritable démarche sociale.
Dans notre projet, nous sommes guidés par une idée. On se rend bien compte que le monde actuel ne va pas bien et on a voulu mettre notre grain de sel pour l'améliorer. Et on est convaincu que la solution pour y arriver, c'est de redonner vie au milieu rural.
Mais évidemment, pas n'importe comment. Arco et Sonia défendent les petites structures agricoles. Grâce à un ami, ils ont eu la chance de pouvoir s'installer gratuitement sur un domaine de 40 hectares. Ce sont des prairies boisées de chêne-liège, connues sous le nom de DSA. Les chèvres y paissent en toute liberté et se réfugient sous un hangar lorsqu'il pleut. C'est la superficie idéale pour 70 bêtes, très loin du modèle défendu par l'administration, qui privilégie l'élevage intensif.
Dans notre cas, ils considèrent que 70 bêtes, ce n'est pas rentable. On devrait en avoir 230 selon leurs calculs. Cela ne devient plus soutenable du tout. L'administration ne comprend pas que c'est la microstructure qui va défendre le milieu rural. Elle continue de défendre l'industrie agricole, l'entreprise, la monoculture, maximaliser la production et les bénéfices.
Même s'ils rêvent d'un monde meilleur, Sonia et Arco sont des pragmatiques. Pour survivre, il faut gagner de l'argent. Et cela passe par une augmentation de la production de lait sur leur exploitation de 60 à 100 litres par jour. Alors, pour la première fois en 5 ans, ils ont sollicité l'aide européenne aux jeunes agriculteurs. Ce qui n'empêche pas Arco de porter un jugement critique envers la politique des subventions.
La subvention ne doit pas être là pour sauver le milieu rural. On doit pouvoir vivre du milieu rural, cela doit être rentable. S'il faut augmenter le prix de l'huile ou du fromage, on doit le faire. La subvention, elle doit servir non pas à acheter une voiture neuve, mais à accéder aux terres, à financer les premiers investissements d'infrastructures ou donner un coup de pouce au début.
Et pour parvenir à l'équilibre économique, il multiplie les initiatives, comme le détaille Sonia.
Pour que ce soit rentable, il faut trouver d'autres formules, diversifier le produit et les activités au-delà de l'élevage. Faire du fromage, comme c'est notre cas, mais aussi organiser des visites à la ferme, faire des journées portes ouvertes de dégustation, se creuser la tête pour que notre projet ne repose pas sur un seul pied et que si une des activités faiblit, on puisse se retourner vers les autres.
Élever des chèvres dans un territoire oublié, respecter l'environnement et créer des emplois, c'est le défi de ce jeune couple qui veut faire de ce métier de berger l'un des plus anciens du monde, un métier moderne.
Agri, bashing, cyber, harcèlement, c'est un nouveau phénomène auquel les agriculteurs sont confrontés et pas du tout préparés. Meurtriers, violeurs de vaches, voilà quelques-uns des qualificatifs injurieux relevés par une étude de l'Université vétérinaire de Vienne en mai dernier et qui s'inquiète de ce phénomène de violence sur Internet. Pour faire face à ces agressions d'un genre nouveau, l'Institut de formation continue des agriculteurs autrichiens propose depuis peu des cours de communication subventionnés par la politique agricole commune. Les explications de Céline Béal.
Sur le terrain, des agriculteurs témoignent de crachats lancés dans leur direction ou de prises à partie. En mai, une étude de l'Université vétérinaire de Vienne a également montré l'ampleur du cyberharcèlement subi par un échantillon d'agriculteurs autrichiens et allemands. Lorsqu'ils s'aventurent à communiquer via une page Facebook, ils se voient traités de meurtriers ou de violeurs de vaches, entre autres commentaires. L'étude pointe la difficulté pour les agriculteurs d'entrer en dialogue avec la société pour faire valoir leurs idées. Mais les choses peuvent changer alors que le secteur, à l'instar de l'organisation de la jeune agriculture, mise davantage sur l'apprentissage de la communication. L'organisme de formation continue des agriculteurs autrichiens propose désormais, aux côtés des traditionnels savoirs paysans, un grand nombre de cours dans le domaine de la communication. Rien que pour les mois de janvier et de février prochains, 7 cours sont programmés dans toute l'Autriche. Ils promettent aux agriculteurs qui s'y inscrivent de devenir des ambassadeurs de leur branche ou de leur apprendre le bon vocabulaire ainsi que le bon langage corporel ou encore la rhétorique et la répartie face aux questions difficiles. C'est donc avec des storytellers que l'agriculture entend contrer l'agri-bashing. Décidément, il y a du nouveau dans les campagnes autrichiennes.
En France, une pratique ancestrale revient à la mode, l'agroforesterie. Les agriculteurs replantent des arbres sur leurs parcelles, ils recréent ainsi des écosystèmes et des habitations pour la faune. La plus grande surface d'agroforesterie en Europe se trouve dans le sud-ouest de l'Espagne, sur 4 millions d'hectares. En France, la pratique est encore minoritaire, mais de plus en plus de paysans s'y mettent. Reportage en Bourgogne avec Alexis Bédu.
Le champ est entouré de collines et de forêts, rouges, jaunes, oranges, le Morvan dévoile ses couleurs d'automne. Et comme s'il n'y avait pas assez d'arbres, Arnaud Guénaud, éleveur de poulets bio, a décidé d'en replanter. 360 noyers garnissent son terrain avec accès direct depuis les poulaillers grâce à un ingénieux système.
Donc là, on est côté extérieur, donc côté trappe. Donc j'ai les manivelles, donc on tourne les manivelles, ça me fait lever les trappes. Dès que ça s'est levé, hop, les poulets sortent et hop, ils vont gambader dans le parcours. Dans les arbres, ils mangent l'herbe, ils mangent les insectes, tout ce qui est à manger, l'herbe. Et puis après, hop, le soir ou les après-midi, hop, ils rentrent au frais. Ils viennent boire un coup, puis après, hop, ils repartent. Ils vont se gambader comme ils veulent sur 2 hectares de parcours.
L'agroforesterie, c'est une pratique, une façon d'associer les arbres, les cultures, les pâturages sur une même parcelle. Recréer des haies pour favoriser les écosystèmes autour d'un arbre, c'est toute une vie qui s'élabore, des champignons, des bactéries et des insectes.
Donc les rangées de noyers sont espacées de 13 mètres de large et de 8 mètres d'intervalle. Et ensuite, tous les 4 noyers, j'ai planté ou un pommier ou un érable plane pour faire plusieurs hauteurs dans le futur. Pour qu'il n'y ait pas aucune rangée de noyers, que ça fasse plusieurs hauteurs, plusieurs couleurs d'arbres, et avec les pommiers pour faire du cidre quand tu auras des pommes.
Faire du cidre, ça c'est un petit bonus, mais surtout débuter une production de noix de Bourgogne. L'agroforesterie va permettre à Arnaud Guénaud de diversifier son exploitation.
Ça me bottait depuis quelques années d'en faire, et après peut-être pas dans les cultures, mais au moins sur des parcelles qu'on ne pouvait pas trop exploiter, refaire une production en plus. En plus, il y avait déjà des noyers qu'on avait déjà arrachés depuis quelques années. Et donc, j'en ai replanté. Et comme ça, ça me fera dans 10 ans, normalement, une culture en plus en vente pour pouvoir récolter les noix pour les vendre.
Le jeune homme de 29 ans s'occupe seul de ses 8000 poulets. Il les garde 90 jours, puis les envoie dans un abattoir à proximité. Ils partiront ensuite sur des étals aux Pays-Bas, vendus comme poulets bio élevés en France.
Donc il y a 10 trappes. Je voulais absolument qu'ils sortent dehors. Je ne peux pas les voir à l'intérieur.
Vous aimez pas ça ?
Non, après c'est pas ma philosophie, c'est pas mon système d'élevage que je voulais. Moi, il faut que ça sorte dehors, sinon c'est miette. Je leur mets des petites bottes de paille pour que ça fasse leur perchoir. Qui jouent avec la paille parce que c'est des gamins, ça faut toujours les occuper. Et puis ils ont de l'eau à volonté, l'aliment à volonté, la paille pour jouer. Je leur mets des petits ballons de gamins là pour qu'ils jouent avec. À la mi-octobre, c'est le matin dès qu'il fait jour à 6-7 heures, ça sort dehors jusqu'à 21h le soir non-stop. Et ça court dehors, ils sont heureux hein, ces machins-là.
Des arbres pour favoriser le bien-être animal, c'est aussi ce qui a motivé Arnaud Guénaud à franchir le pas. En France, on compte 500 nouveaux agriculteurs en agroforesterie chaque année. L'agroforesterie n'est prise en compte dans la réglementation de la politique agricole commune que depuis 2006. Cela permet un soutien financier important jusqu'à 80% du coût de l'installation.
Quand on est dans le sens du vent, c'est pas drôle, on se prend tous les copeaux dans les yeux. Ça picote.
Thibaut Singier et sa compagne Claire Bertrand ont eux aussi replanté 1700 arbres et 9000 arbustes sur leur parcelle située à une heure de route à l'est de Paris. Thibaut est cultivateur en grande culture de céréales. Claire, microbiologiste, étudie l'agronomie des sols, les interactions qui peuvent exister entre les arbres et les cultures. Elle s'est penchée sur l'assimilation du phosphore par les micro-organismes de leur parcelle.
On sait que le phosphore présent dans le sol à la base n'est pas facilement assimilable par les plantes. Donc est-ce que le fait d'avoir un cortège microbien qui s'installe en fonction des espèces d'arbres qui ont été implantées, est-ce que dans cette diversité de micro-organismes, on peut en trouver qui aident à assimiler le phosphore ? Parce que le phosphore, c'est aussi une ressource qui est épuisable, qui est fossile. Donc si, grâce à l'agroforesterie, on peut prouver qu'il y a une diversité de bactéries ou de champignons qui aident à assimiler le phosphore pour les cultures mises en place, ça serait super.
Au sein de l'Union européenne, l'agroforesterie représente 15 millions d'hectares, un dixième des terres agricoles. L'association Arbres et Cultures Végétales, souhaitée par le couple, est plutôt rare. La plus grande partie des surfaces est surtout consacrée à l'élevage.
Et il n'y a pas que dans les champs que les arbres sont utiles. À Amiens, dans le nord de la France, en pleine ville, depuis 2014, la commune valorise 500 tonnes de feuilles mortes chaque année et fabrique de l'électricité avec. Les explications de Lise Verbeck.
Si l'on part du principe qu'un arbre à feuilles caduques possède en moyenne 30 000 feuilles, on peut donc dire qu'environ 1 milliard de feuilles mortes tombent chaque automne sur le sol amiénois. Un chiffre vertigineux. De mi-octobre à début décembre, les agents du service Espace Vert d'Amiens ont donc une mission. Ramasser chaque jour les feuilles avec leur souffleuse thermique et électrique. Une opération qui a un coût, mais que la ville a su utiliser à son avantage. Depuis 2014, elle recycle ses feuilles. Sur les 500 tonnes de feuilles ramassées chaque année, la moitié est réduite en compost destiné aux agriculteurs. Et l'autre moitié, qui concerne les feuilles souillées par du plastique ou d'autres déchets, est traitée à l'usine de méthanisation de déchets organiques au nord d'Amiens, la plus vieille de ce type en France. Pendant 2 mois donc, c'est un balai quotidien des camions-bennes qui viennent remplir d'immenses cuves, les digesteurs. Les feuilles mortes y fermentent pendant 40 jours. La décomposition produit du biogaz qui fait ensuite tourner des moteurs qui génèrent de l'électricité. Résultat, chaque année, l'usine de méthanisation valorise 100 000 tonnes de déchets ménagers et verts. Dans l'usine, chaque année, le gaz qui fait tourner les moteurs permet de générer de l'électricité pour 4200 foyers, soit l'équivalent du centre-ville d'Amiens. Une démarche vertueuse pour l'environnement, mais aussi pour le porte-monnaie, car le recyclage des feuilles mortes couplé à l'amélioration du tri dans les foyers de la métropole a permis de baisser de 10% la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
C'est l'heure de notre chronique en un mot, avec une expression ou un mot souvent intraduisible. Direction l'Écosse aujourd'hui avec Hogmanay. Ce mot écossais qui date du 15e siècle désigne le dernier jour de l'année. Il est toujours très employé aujourd'hui pour parler du réveillon, des festivités du nouvel an. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Léa Lisa.
Ce mot, c'est une traduction de l'anglais ou est-ce que Hogmanay désigne des traditions à proprement dites écossaises?
Alors, ce sont des célébrations 100% scottish. Les Écossais en sont d'ailleurs très fiers. C'est spécial hein, parce que pendant plusieurs siècles, Hogmanay était une fête beaucoup plus importante que Noël. Le 25 décembre est officiellement un jour non travaillé seulement depuis 1958 en Écosse. Célébrer Noël a même été complètement et légalement interdit dans la nation du Nord de 1640 à 1712 pendant plus de 70 ans. Donc, tout ça pour dire qu'on ne célébrait pas ou très peu Noël, mais il y a toujours eu ce besoin de faire la fête pour combattre la morosité et la noirceur du cœur de l'hiver. Alors c'était plutôt le 31 décembre qu'on célébrait, qu'on s'échangeait des cadeaux. Aujourd'hui, les étrennes ont lieu le 25, mais le 31 reste spécial.
Alors en quoi ça consiste, Hogmanay?
Il y a bien sûr plusieurs manières de célébrer, hein, mais ça reste une fête communautaire plus que familiale. George Ormiston, un luthier de la ville de Stirling, l'ancienne capitale de l'Écosse, est un grand fan d'Hogmanay.
Hogmanay est un temps pour la musique et pour danser. Bon, honnêtement, tout est bonne excuse pour ça en Écosse, mais spécialement durant cette période. On voit beaucoup de groupes de musique folk, les Kelly Band, qui jouent les morceaux traditionnels pour danser. Et il y a toujours une flûte. Features quite strongly. C'est Mary's Wedding, souvent l'un des premiers morceaux joués lors des danses. Et la danse pour celle-ci s'appelle le Guy Gordon. C'est ce qu'on appelle une marche.
Et bien sûr, la bagpipe, la cornemuse, joue aussi un rôle primordial. Parce que si on célèbre Hogmanay dans la salle des fêtes locale, par exemple, pour qu'il y ait assez de place pour danser, on va aussi, plus simplement, dîner dehors. Gordon est un joueur de cornemuse professionnel à Stirling.
Chaque année, je vais jouer dans un restaurant. Je joue un peu avant minuit pour mettre l'ambiance. Et puis, il y a les 12 coups de minuit. Et c'est là que je commence le morceau traditionnel, Auld Lang Syne. Deux fois lentement, puis une troisième fois plus vite. Tout le monde se lève, se met en cercle, danse et fait la fête.
Mais il y a un endroit en particulier en Écosse où Hogmanay est une fête à la renommée internationale, c'est la capitale, Édimbourg.
Oui, ça fait 25 ans que l'événement est devenu plus formel avec une véritable organisation. Ed Bartlam est le co-directeur des festivités. C'est tout un programme hein, sur 3 jours.
Le festival commence le 30 décembre avec la procession des torches. Environ 20 000 personnes descendent torche à la main le Royal Mile, cette longue rue en pente qui relie le château d'Édimbourg en haut au palais d'Hollywood, la résidence officielle de la reine en Écosse qui est en bas. Il y a des joueurs de cornemuse et de tambour qui accompagne la marche. Ça commence à 19h et ça finit avec un feu d'artifice à 21h.
Mais le plus gros feu d'artifice et la plus grande fête, c'est quand même le 31. La rue de Prince Street est remplie de petites scènes où jouent des groupes de musique, modernes, c'est traditionnel. Il y a aussi bien sûr des Kelly Bands pour danser et puis des jongleurs, des acrobates. Vers minuit 10, un groupe joue le fameux Auld Lang Syne. La performance est reproduite sur des écrans et dans les haut-parleurs et tout le monde chante ensemble, on donne la main à son voisin aussi, même si on ne le connaît pas. Bref, c'est la fête et c'est même pas fini.
Le premier, il y a la Looney Duke, le plongeon des fous. Ce sont environ 1000 personnes qui s'habillent de manière extravagante et qui courent dans la mer du Nord, juste aux abords d'Édimbourg. L'eau est glaciale.
Après cette épreuve, le temps de repos, le 2 janvier est encore férié. Les Écossais ont un jour de plus que les autres Britanniques pour se remettre de toutes ces festivités.
Merci Marie Billon. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot, une émission cofinancée par l'Union européenne. Pour nous écouter, nous retrouver partout, tout le temps, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. À demain!